En attendant de retrouver vos habitudes à la rentrée, on vous propose de découvrir cette nouvelle émission dont vous pouvez retrouver tous les épisodes sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Juillet 2025. Je suis la mère de toutes les bombes. A. H. N. Mon nom est The Gadget. Oui. Un drôle de nom pour ouvrir un tel âge. L'âge atomique. Avec ma naissance, c'est l'humanité tout entière qui a été convoquée. Je suis né le 16 juillet 1945 à Los Alamos, dans le désert du Nouveau-Mexique. Mon poids, 20 kilotonnes. Il était 5h, 29 minutes et 21 secondes. Il faisait nuit. On raconte que les montagnes de la vallée de la Jornada del Muerto se sont illuminées comme en plein jour.
Le 16 juillet 1945, une femme conduisait une voiture dans l'état du Nouveau-Mexique. Il faisait encore nuit à 5 heures du matin. Elle arriva dans un village, descendit et se mit à frapper aux maisons pour éveiller les habitants. « Il faut que je vous parle, » disait-elle. Il faut que je vous raconte ce que j'ai vu, c'est incroyable. J'ai vu le soleil se lever, puis brusquement se recoucher. Cette femme venait de voir à une distance de près de 100 km éclater la première bombe atomique.
Aujourd'hui est le jour de mon anniversaire. 80 ans. Je me sens vieille, lasse. Peut-être aussi un peu coupable. 80 ans que je porte la mauvaise conscience de l'humanité. C'est lourd à porter. Je ne suis que la créature des hommes, le fruit de leur démesure.
C'est en réalité comme un petit morceau de soleil qu'il se forme. Une sphère de feu de près de 2 km de diamètre, dont le centre atteint une température supérieure à quelques millions de degrés centigrades, et qui dans ce cas fit fondre le sable du désert sur une surface de près d'un kilomètre carré. Et ceci est presque comme un symbole. L'homme a le choix d'utiliser soit le soleil qu'il a su recréer, soit pour ses bienfaits et son énergie, soit pour la nuit qui lui succède, ne laissant que du sable fondu.
On dépense des centaines de milliards de dollars pour que je reste jeune. Mais au fond, si on me demandait mon avis, j'aimerais plutôt que l'on m'offre une belle retraite. Je pourrais mourir de ma belle mort, de vieillesse. J'aimerais finir ma vie dans un musée où l'on parlerait de moi au passé, pour l'histoire. Si j'avais un peu de temps pour moi, plutôt que de courir le monde, j'écrirai tranquillement mon journal. Je dirai ma vérité. Par les temps qui courent, je sais, cela ne fait pas très sérieux. Mais je n'ai plus grand-chose à perdre. On a raconté tant de choses sur moi. Et dire que certains ont voulu me décerner le prix Nobel de la paix. Je sais, vous allez trouver tout ça très étrange. Une bombe qui écrit et qui parle, qui dit surtout qu'elle a envie de mourir en paix. Une paix dans la paix, et non pas une paix dans la peur.
Journal de la bombe, une vie atomique. Le projet Manhattan, ou les prémices d'une désintégration. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anne Pérez.
Docteur Oppenheimer, beaucoup de gens pensent qu'en trouvant le moyen de désintégrer la matière, l'homme a découvert un secret qui le dépasse et qu'il est en train de creuser son propre tombeau. Qu'en pensez-vous, vous ?
Je ne suis pas optimiste, mais je maintiens un espoir.
Sous quelle forme cet espoir ?
Qu'on trouvera le chemin.
En 1898, Marie Curie, Pierre Curie et son frère Jacques Curie ont fait des mesures et ont montré que l'énergie de désintégration du radium était incommensurablement plus forte que une énergie chimique produite par une réaction chimique entre deux atomes.
Yves Lenoir.
En 1902, réfléchissant à cette question, les physiciens anglais Rutherford et Soddy, qui étaient un très très brillant physicien et chimiste, ont imaginé ce qui se passerait si on arrivait à contrôler, à forcer la matière à fournir toute cette énergie, non pas très lentement comme le radium, mais en une fois. Et les calculs montraient immédiatement qu'on aurait un explosif d'une puissance incomparable. Et ayant lu leur papier, parce que ça a été publié, un historien des sciences et philosophe américain, Henry Adams, a écrit une lettre à un de ses amis historiens, Taylor, et lui a dit « Écoutez, maintenant qu'on sait qu'on a cette perspective, je pense que dans moins d'un demi-siècle, le droit cédera la place à la force et les explosifs ont une puissance cosmique. » 1903. Avant que Einstein et Poincaré ne découvrent la relativité restreinte, c'est-à-dire l'équivalence entre énergie et masse. Parce qu'ils savaient comment les hommes utilisaient les progrès technologiques, tout simplement. Ils avaient une idée réaliste de la propension des hommes à faire de tout de la force et de la violence. Et le seul homme politique qui se soit intéressé à la question, c'est Churchill. Churchill, en 1910, était persuadé qu'un jour, on ferait une bombe atomique. Et c'était le seul chef d'État qui avait pensé à ça. Les militaires n'y pensaient pas du tout. Donc les militaires ne s'intéressaient absolument pas à la physique nucléaire.
Personne n'imaginait que le noyau pouvait se couper en deux.
Harry Bernas.
Et qu'on aurait cet effet qui a été baptisé fission. Et que on pouvait, puisqu'il y avait fission, et compte tenu des travaux qu'avait fait Einstein dans les années 1905, il avait sorti une équation qui expliquait comment matière et énergie étaient deux aspects d'une même réalité, et qu'il y avait donc possibilité de transformation de matière en énergie réciproquement. C'était une idée qui paraissait totalement théorique, sur laquelle personne mettait trop l'accent à un moment. Mais enfin, pour des gens comme Bohr ou les Joliot, comme tous les scientifiques de premier rang de l'époque, c'était une idée qui était présente, évidemment. Cette idée qu'on disposerait d'une énergie formidable, elle revient sans arrêt dans les articles, dans la presse. Simplement, personne n'imaginait comment ça pouvait marcher, quoi.
Monsieur le professeur, on cite souvent en France, du moins je pense qu'on le cite aussi en Amérique, un mot d'Einstein qui dit « Si c'était à recommencer, je me ferais plombier, et vous ?»
Je suis très content que les conditions de la vie humaine sont telles qu'il ne faut jamais répondre à de telles questions.
Et dans le processus de réaction en chaîne lui-même. Alors ce processus de réaction en chaîne, c'est un processus exponentiel, c'est-à-dire que un neutron va produire une fission qui va produire deux neutrons, donc deux neutrons vont ensuite chacun interagir, etc. Donc c'est deux puissances n. Quand vous arrivez au niveau où vous en êtes à la 15e génération, quelque chose comme ça, vous avez dépassé le million. Donc il y a 1 million de noyaux d'uranium qui ont été impliqués, et le temps que ça met, c'est inférieur au millionième de seconde. C'est l'explosion, et donc c'est l'idée d'une bombe. Et dès que la notion de fission a été établie, et avant même que la réaction en chaîne ne soit trouvée, tous les gens qui étaient au courant se sont dit, il faut voir si une réaction en chaîne est possible. Si la réaction en chaîne est possible, il faut se poser la question de l'explosion. Et donc, imaginez que ça peut être une arme. Or, les gens qui avaient découvert la fission, c'était des Allemands.
La réaction en chaîne, qui est inventée par le physicien Leo Szilard en 1933,
Sébastien Philippe,
elle prédate la découverte de la fission de l'uranium, qui, elle, arrive en 1939, juste au début, juste vraiment au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la combinaison de ces deux découvertes, la possibilité de fissionner l'uranium et la compréhension qu'une réaction en chaîne est possible, qui tout de suite va alerter en fait les physiciens qui se rendent compte qu'on va pouvoir fabriquer des armes. Et ces armes vont pouvoir libérer une énergie, on va dire, 1 million de fois plus importante que celle qui juste alors est possible par des simples réactions chimiques. Il y a cette peur que l'Allemagne nazie en fait va demander à ses scientifiques de construire la bombe également. Et là, la peur, elle est basée sur le fait que la découverte du procédé de fission, c'est une physicienne, Lise Meitner, et un collègue à elle qui s'appelle Otto Frisch. Et ils sont basés en Allemagne. Donc tout le monde sait, on va dire, en France, en Angleterre, aux États-Unis, qu'il y a des physiciens qui ont déjà poussé en fait la recherche assez loin. Et donc ils pensent que potentiellement, comme eux, en Angleterre et aux États-Unis, ils sont en train de faire les mêmes recherches. Et donc il y a un peu cette idée d'une course à la découverte scientifique pour arriver à avoir la bombe avant que les Allemands ne puissent l'avoir. C'est à ce moment-là que Leo Szilard va demander à Einstein d'écrire au président des États-Unis et de lui faire part et de lui expliquer que cette découverte de la fission de l'uranium et la possibilité de faire une réaction en chaîne rend possible la fabrication d'armes nucléaires de destruction massive. Et c'est comme ça qu'on alerte le président des États-Unis.
Le personnage central, c'est Leo Szilard. Szilard donc avait rédigé un projet de lettre en août 1939 qu'il a revu avec deux collègues hongrois. Donc ces trois arrivent avec un projet de lettre qu'ils veulent faire signer à Einstein parce que c'est le seul scientifique qui sera audible par un président des États-Unis, pense-t-il. Et donc, ils arrivent avec un projet de lettre qui dit « Des travaux qui ont été faits par Hahn en Allemagne et par Joliot en France montrent qu'il y a une possibilité de réaliser non seulement la fission, mais la réaction en chaîne. Et cette possibilité ouvre la possibilité de créer une bombe. À ce moment-là, vers Noël 40, l'équipe de Lorenz, sur la côte ouest des États-Unis, découvre le plutonium, un nouvel élément qu'on connaissait pas. Et le plutonium, comme on le craignait, ou comme on l'anticipait en tout cas, l'isotope de plutonium qui est créé en irradiant l'uranium, c'est un isotope qui est fissile, avec une efficacité plus grande. C'est pas 2 neutrons qui sont émis à chaque fission, c'est 3. Et ça, c'est d'une gravité extraordinaire, parce que le plutonium n'a pas les mêmes propriétés chimiques que l'uranium, et donc les problèmes d'isolement du plutonium pour faire une bombe à partir du matériau plutonium, c'est beaucoup plus simple. Et à ce moment-là, beaucoup de gens peuvent y avoir accès. Alors, ils reviennent avec cette découverte, ils reviennent vers le pouvoir politique et ils disent « Bon, maintenant, il faut mettre le paquet. » Parce qu'on a en face de nous des gens qui sont extrêmement compétents. C'est dirigé par un théoricien qui est un des meilleurs du monde, c'est Heisenberg. C'est quelqu'un dont ils savent par ailleurs que ses opinions ne sont pas particulièrement démocrates. Et donc, il doit participer et être très impliqué en Allemagne avec les forces que les Allemands ont, qui sont très supérieures à celles des Américains du point de vue industriel, etc.
Le spectre d'une paternité nazie aura donc hâté ma venue au monde. C'est ainsi que je suis née américaine et non allemande. Ironie du sort, ce sont des scientifiques d'origine juive, ayant fui le régime fasciste, qui auront œuvré à ma conception. En ce jour du 17 juillet 1945, ceux qui sont restés au service du Troisième Reich sont loin d'avoir découvert tous les secrets de ma fabrication. D'autant que, suite à la bataille de Berlin, certains ont ils ont rejoint le projet de bombe atomique de Joseph Staline. Au lendemain de ma naissance, je ne peux toutefois m'empêcher de me demander quelle aurait été la face du monde si j'étais née allemande.
On entend dire quelquefois que devant les conséquences incalculables que peut avoir le développement de la recherche scientifique telle qu'elle existe aujourd'hui, on se demande s'il ne vaudrait pas mieux quelquefois arrêter, si je puis dire, la science. Peut-on le faire et doit-on le faire?
Il faut savoir, si on peut savoir. Je ne crois pas que cette pratique de l'arrêter, si on le fait soi-même, les autres vont le faire, ne se croit pas que c'est moral. C'est le destin de l'homme de savoir tout ce qu'il peut et d'en vivre, de vivre avec cette connaissance. C'est un destin difficile si on ne tâche pas de vivre avec la connaissance. On n'est pas proprement un homme du tout.
Et donc, ce sera la course. C'est à ce moment-là que le paquet est mis, qu'on crée le projet Manhattan, entre 40 et début 41. Le crédit est largement du côté de Roosevelt et des gens autour de Roosevelt, qui ont une qualité de vision politique et de vision d'avenir qui est sans commune mesure avec tous les autres politiciens des États-Unis. Donc c'est une équipe assez petite, assez restreinte. On met en place le projet Manhattan, dirigé par un militaire, qui est le général Groves, qui est un type qui n'a aucune connaissance scientifique fondamentale, mais qui est le type qui a construit le Pentagone. Le Pentagone, qui était un projet absolument faramineux, on lui adjoint quelqu'un, c'est à lui de choisir la personne, il choisit Oppenheimer.
Oppenheimer, il a un parcours assez différent, c'est un théoricien. Il n'a pas participé aux études préliminaires sur l'uranium, la fission, la réaction en chaîne et ces choses-là. Mais c'était un esprit extrêmement agile qui absorbait toutes les théories les plus abstraites et complexes en physique nucléaire et en physique des particules de l'époque. Une capacité de travail absolument incroyable. Et une capacité d'abstraction, d'assimiler les choses les plus complexes, énorme. Ça, c'est grâce à son père. Son père était très riche. Il a donc financé des séjours à Göttingen, dans les équipes allemandes de physique, en Grande-Bretagne. Il a donc eu des études extrêmement coûteuses payées par son père, qui à chaque fois étaient mises à profit par lui pour assimiler tout un savoir en mécanique quantique, etc. Et il a été choisi pour cette capacité à intégrer les savoirs, pour diriger l'équipe, pour être en gros le directeur scientifique de l'équipe qui allait concevoir la bombe à Los Alamos. Il fallait voir l'assemblage. Tous les savoirs étaient là, les chimistes, les explosifs, la métallurgie, enfin, toutes les sciences les plus avancées, chacune dans son domaine industriel, étaient réunies à Los Alamos. Tous ces physiciens qui venaient d'Europe, hein, plus les Américains, travaillaient de conserve, avec des points de vue assez différents sur l'objectif. Les Américains étaient traditionnellement très opposés à travailler avec les militaires, les Américains, les scientifiques américains, les physiciens, les chimistes. Ils n'aimaient pas travailler pour l'armée. En revanche, les exilés d'Europe, qui savaient ce que c'était que le nazisme, eux, ils voulaient faire la bombe. Et travailler avec les militaires, ça ne leur posait pas de problème de conscience.
Frédéric Glorian.
La science atomique était une science européenne, avec énormément d'ailleurs de savants d'origine juive, qui vivaient en Allemagne, en Autriche, en Europe centrale. Ils sont directement menacés par les nazis, ils fuient, parfois par la France, par l'Angleterre, et ensuite vers les États-Unis. Et en fait, tous ces savants de diverses nationalités, diverses origines, vont être accueillis dans le giron du Manhattan Project. Et donc on a vraiment un transfert de cerveau. Alors il y avait des savants américains de très haute volée, hein, mais c'est enrichi par les apports de cette science européenne que le Manhattan Project va avancer également.
How much time do we have? Minutes, days, months, years? We don't know. But this we do know. Civil defense is everybody's business.
À partir du moment où les Américains entrent en guerre, ils mettent des moyens énormes, avec toute la puissance à la fois de l'industrie, des universités américaines, la puissance scientifique américaine, big physics, big business, et on a un programme d'une ampleur énorme Et en une année, en 42 en gros, le programme américain rattrape son retard par rapport aux découvertes britanniques. Jusqu'en 1941, le programme atomique britannique est celui qui est le plus en avance. Roosevelt se mobilise tardivement sur la question de la fabrication d'une bombe nucléaire. C'est vraiment à partir de la fin 42, c'est vraiment le Manhattan Project qui avance à vitesse grand V vers la fabrication de cette nouvelle arme.
Civil defense is common sense. Be prepared today for survival tomorrow.
Le président a dit OK. Alors au début c'était 10 000 dollars par ci, 100 000 dollars par là. Et là ça a été des millions, puis des centaines de millions, puis des milliards de dollars. Et donc en 42, on a lancé le programme avec la construction de l'usine de Hanford, le laboratoire à Chicago, le laboratoire à Oak Ridge pour l'enrichissement, et puis à Los Alamos, la conception et la fabrication de la bombe. Ils avaient pensé où étaient les verrous. Est-ce qu'on pourra faire un réacteur contrôlable, un réacteur pour produire le plutonium? Oui, on l'a trouvé. Est-ce qu'on aura du graphite assez pur? On a mis du temps, mais on a réussi à avoir du graphite assez pur. Est-ce qu'on saura purifier l'uranium suffisamment pour que dans le réacteur, les choses se passent bien? Oui, ils ont réussi. Ensuite, il fallait trouver la chimie qui allait permettre de séparer le plutonium de l'uranium et des produits de fission. Ils l'ont fait. Ensuite, il fallait étudier les propriétés météorologiques du plutonium, qui sont extrêmement complexes. C'est un métal épouvantable. Il a plusieurs variétés cristallines. On ne sait jamais très bien laquelle on a dans les mains, etc. Ils l'ont fait. Et tout ça a pris beaucoup de temps. C'était à chaque fois à des verrous. Et quand ils ont su usiner le plutonium correctement, eh bien, ils savaient qu'ils pouvaient faire une bombe au plutonium.
Believe this. You can survive the bomb if you get ready now. If you know what to do when an attack comes.
Vous avez les mines, toutes les mines d'uranium. Si vous voulez, quand on parle de l'uranium, on se réfère toujours aux 2500 tonnes d'uranium qui traînaient dans une mine de la compagnie minière du Haut-Katanga, d'où on extrait le radium. L'uranium était un déchet qu'on laissait sur place. Et les Américains, évidemment, savaient qu'il y avait de l'uranium là-bas, et ils se sont dit, c'est nous qui allons le prendre et pas les Allemands. Donc ils ont envoyé une équipe acheter l'uranium à la compagnie minière du Haut-Katanga, Congo-Belge. Mais c'était tout à fait insuffisant. Vous imaginez les quantités d'uranium pour produire du plutonium dans des réacteurs où on fait l'irradier très peu pour avoir un plutonium très pur. Donc en fait, c'est par dizaines de milliers de tonnes qu'ils ont produit de l'uranium aux États-Unis. Et là, ben, c'est une nouvelle industrie minière hein, qu'il fallait développer. Il y avait un espèce d'élan pour réussir. Ils avaient planifié ça, mais rigoureusement. Et on a présenté à Roosevelt le programme. On a dit, dans 2 ou 3 ans, on aura fait la bombe.
Oak Ridge, capitale de la bombe atomique, n'est plus aujourd'hui fermée à tout venant. La caméra a été pour la première fois admise à connaître les bungalows, les rues, les constructions, où pendant plusieurs années, entre leurs tâches et leurs plaisirs, 30 000 âmes ont dû vivre en vase clos à cause du grand secret.
C'est inimaginable, la taille même de ces usines. À Hanford, il y avait des centaines de bus qui amenaient tous les matins les employés.
Jean-Marc Royer.
On imagine les gens se rendre tous les jours comme ça au boulot, au milieu de nulle part, là, faire quelque chose d'excessivement répétitif tous les jours à chaque heure, etc., sans savoir quel est le but de la chose. Il valait mieux, d'ailleurs, c'était indiqué à l'entrée de certains sites, si on se posait des questions, il valait mieux les garder pour soi. Ce projet aurait pris 12 années pour être mené à bien, et en temps de guerre, possiblement moins, c'est-à-dire 8 années. Et là, il a été réalisé en 3 ans. Bon.
Il y a 2 pôles du projet Manhattan. Il y a un pôle qui est la construction de la bombe, à Los Alamos, et puis il y a un autre pôle sur la côte est des États-Unis, autour de MIT, mais aussi Harvard, Columbia, des universités qui travaillaient en liaison très étroite et avec les gens de Los Alamos. C'était les radars, l'électronique, des techniques d'optique, des techniques de détection, tout ça pour des armes. Mais là, c'est un domaine où le travail financé par l'armement a conduit à des découvertes tout à fait fondamentales. Les semi-conducteurs, les lasers sont issues de la physique qui a été faite dans ce pôle-là du projet Manhattan. Le projet Manhattan, c'est 130 sites répartis sur tout le territoire. Et puis, il y a de manière délibérée et planifiée, c'est la rentrée dans les processus industriels des scientifiques. Vannevar Bush, qui était un président d'université, grand ingénieur et très bon scientifique, devient le conseiller de Roosevelt sur le projet Manhattan. Et il écrit un rapport qui s'appelle « La science, la nouvelle frontière ». Et la nouvelle frontière, il voit ça comme le besoin de faire pénétrer l'ensemble du tissu industriel par une culture scientifique. Et il ne sépare absolument pas le développement militaire du développement industriel. Jusque dans les années, début des années 40, le nombre total de scientifiques sont à peu près 3000. Début des années 70, ils sont environ 300 000. Le fait que ce soit une production militaire a une contrepartie essentielle, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de limite au financement.
Will you take the step? Make this year your family's year for civil defense. You take the first step.
Civil defense, an American tradition.
C'est en même temps à l'époque où les États-Unis sont évidemment moteurs pour la création de l'ONU, etc., qui est à la fois une manière d'aborder les problèmes de la guerre et de la paix, avec des aspects qui sont évidemment très positifs, mais en même temps, c'est aussi la possibilité de jouer le rôle à la fois de protecteur, de gardien, au sens un peu moins positif du terme, des intérêts américains. Donc le projet Manhattan, je pense qu'il faut le voir dans sa globalité. Dans le contexte de la guerre, c'est la préparation de l'avenir post-guerre.
Quelques secondes avant ma naissance, j'ai entendu l'un de mes pères murmurer au général Groves, cette fois nous jouons gros. Tout s'est passé en quelques millièmes de seconde. Mon cri a déchiré le silence bien au-delà d'El Paso. Une boule de feu a jailli et j'ai libéré la chaleur de 1000 soleils. Tout à coup, les stratocumulus ont pris une teinte pourpre. Un champignon s'est formé, dont la tête a pénétré la stratosphère. Enfin, il y eut à nouveau un silence. Pour ne pas inquiéter les populations locales, le général Groves a déclaré dans la presse qu'un dépôt de munitions avait explosé non loin de Los Alamos. Et il crut bon de préciser, pour parfaire la réussite de ce jour historique, sans faire de victimes. Et puis Bainbridge, le scientifique en chef du test, a dit « Maintenant, nous sommes de vrais fils de pute. »
Joshua Wheeler.
The Trinity test occurred on July 16th, 1945.
L'essai Trinity a eu lieu le 16 juillet 1945.
And that was the culmination of the work that
Et c'était le résultat de tous les travaux qui avaient été conduits à Los Alamos. Le gadget est le nom de code que l'équipe du projet Manhattan utilisait pour désigner la bombe au plutonium. Ils avaient besoin d'un surnom pour maintenir le secret autour de cet essai. Et ce nom a été choisi car la bombe test ressemblait à quelque chose qui tenait plutôt de la science-fiction. Elle a été conçue d'une manière qui ne privilégiait pas du tout l'esthétique. Il y avait des fils dans tous les sens et du ruban adhésif par-dessus. L'assemblage était assez hasardeux, malgré sa conception très sophistiquée. Elle avait donc cet aspect qui la faisait ressembler à un gadget que quelqu'un aurait inventé dans son garage. C'est pour cela qu'on lui a donné ce surnom.
Et ben, vous avez donc des câbles qui tournent autour de tout ça et qui vont vers les différentes lentilles d'explosifs qui sont disposées autour de la sphère de plutonium.
Yves Lenoir.
Et ce dispositif, qui avait été mis au sommet d'une tour dans le désert, à 30 mètres d'altitude, dans le désert du Nouveau-Mexique, était quasiment à l'air libre. C'est-à-dire que les câbles, on les voit. Quand vous regardez la photo, vous voyez la boule, qui est l'ensemble qu'on va faire exploser, et puis autour, vous avez les câbles. C'est donc très vulnérable. Il n'y a aucune protection. Et la nuit qui a précédé le tir, il y a eu un gros orage. On pouvait craindre qu'un éclair ne tombe, parce que c'est une tour au milieu du désert, que ça tombe dessus, quoi, vous voyez. Donc, c'était quand même une prise de risque énorme, ce test. Mais tout était bricolé. Avec les gars qui, avec un palan, montent la bombe, vous dites, punaise, si jamais ça n'avait pas été bien calculé, si quelque chose avait cassé, qu'elle était tombée, qu'est-ce que ça aurait fait, vous voyez. C'était complètement du bricolage. Ben, ils étaient pressés par le temps. En février, ils ne savaient pas si la bombe marcherait. Il faut imaginer, hein. En plus, ils sont revenus après pour voir, un ou deux jours après, voire même tout juste après, pour voir les dégâts. Ils avaient mis une tour en béton à 450 mètres, elle a été renversée. Donc ils se sont rendus compte que c'était vraiment très très puissant. Et à partir de là, ils ont fait le calcul de l'énergie qu'elle avait pu dégager.
C'est un essai qui... une arme nucléaire qui contient...
Sébastien Philippe.
6 kg de plutonium. 239, on va dire qu'il y a deux matières fissiles principales qui vont être étudiées pendant le projet Manhattan et qui vont être produites pour libérer, on va dire, et pour démontrer la possibilité de fabriquer ces armes. C'est l'uranium enrichi, où on a beaucoup d'uranium 235. Ça sera aussi la bombe d'Hiroshima. Et puis le plutonium, la bombe au plutonium, plutonium 239, qui est celle qui est testée lors de l'essai Trinity et ensuite est utilisé dans le bombardement de Nagasaki. L'essai de Trinity, c'est une sphère métallique de plutonium qui fait 6 kg. 6 kg, c'est vraiment très peu, et seulement 1 kg est fissionné, en fait, dans cette arme-là, et l'énergie qui est libérée de la fission, juste d'un kilogramme. J'essaie de vous donner un ordre de grandeur, c'est 1 kg de plutonium, c'est comme si vous aviez un... Vous teniez dans votre main un cube de 4 cm par 4 cm par 4 cm, enfin, c'est tout petit. Et donc on fissionne complètement cette quantité de matière et ça libère une énergie qui est équivalente à 20 000 tonnes de TNT. Donc l'explosif, un explosif puissant, hein, chimique. On est dans des... Voilà, dans des ordres de grandeur qui sont extrêmement, extrêmement importants, qui n'avaient été jamais vus jusque-là.
The Trinity test had been executed in New Mexico. The people from Trinity had arrived in the Marianas, and they had left them at that particular time. and when we make our flight tomorrow and release it.
The military often suggested that the explosion of Trinity was a success.
L'armée a souvent laissé croire que l'explosion de l'essai Trinity avait
but
été un succès.
It was essentially by today's
mais aujourd'hui, on peut dire que c'était ce que l'on appelle une bombe sale.
Of the radioactive plutonium material
une grande majorité du plutonium radioactif contenu dans le noyau de la bombe n'a pas fissionné.
And that material was spread out over
et ce matériau s'est répandu sur une très large partie du Nouveau-Mexique lors de l'explosion. Et l'essai a été réalisé sur une petite tour. La bombe était donc assez proche du sol. Et au moment de l'explosion, elle a emporté une grande quantité de terre irradiée dans le champignon atomique.
And because that test was conducted during a
comme le test a eu lieu pendant une période d'orage, le vent et la pluie ont dispersé un peu partout ces particules de terre radioactive.
Eventually, that radioactive material actually went all around the world.
À vrai dire, ces particules radioactives ont fait le tour du monde. D'ailleurs, on peut identifier un vin produit avant 1945 et l'essai Trinity à son absence d'éléments radioactifs. Mais si les raisins ont été cultivés après 1945, ou que ce soit dans le monde, on retrouve des particules radioactives provenant des essais d'armes nucléaires.
Le rapport de Groves au secrétaire d'État à la guerre, Stimson, décrit exactement comment ça s'est passé, ce qu'ils ont observé. C'est assez intéressant, si vous voulez, parce que on voit que certaines idées qu'ils avaient au départ se sont trouvées battues en brèche. Ils avaient donc pensé que le champignon ne pourrait pas percer. Il a atteint en fait la stratosphère, il a atteint environ 12 000 mètres d'altitude. Ça, c'est la colonne de chaleur, hein. C'est pas la boule de feu. La boule de feu, c'est 300 mètres de diamètre, c'est déjà beaucoup. Et c'est ce qu'on appelle plus clair que mille soleils. Parce qu'effectivement, à une certaine distance, une boule à 6000 degrés qui fait 300 mètres de diamètre, c'est plus clair que mille soleils. C'est la température du soleil, mais alors avec un diamètre apparent beaucoup plus grand. Alors cette chaleur, évidemment, elle détruit tout, quoi. Elle grille tout. Elle grille tout jusqu'à une distance de l'ordre de 2 kilomètres, quoi. C'est ce qui est arrivé à Hiroshima. 1 kilomètre 500. Et après Trinity, quelques jours après, ils ont refait un rapport après avoir fait toutes les mesures de terrain, et la conclusion c'est, la prochaine fois, il faudra trouver des conditions d'explosion différentes, ou bien faire le test à une distance d'au moins 240 km de la première implantation humaine. Alors que là, c'était à quelques dizaines de kilomètres. Parce qu'effectivement, ils ont mesuré, dans certains endroits, des retombées extrêmement importantes, qui d'ailleurs actuellement font l'objet de litiges, parce qu'il y a des gens qui ont été exposés et qui croient que leur maladie est due à ça. Ce dont il faut bien se persuader, c'est que les Américains savaient que les retombées posaient un problème, alors que Oppenheimer négligeait ce point.
La population n'a absolument pas été avertie de ce test. Une vingtaine de familles vivaient dans les environs immédiats de l'essai Trinity, dans un périmètre d'une trentaine de kilomètres. Et si on étend ce périmètre à une zone d'environ 80 kilomètres, on trouve de nombreuses communautés. Jusqu'à 30 000 personnes vivaient du côté du bassin de Tula Rosa. La population était donc bien plus conséquente que ce que les autorités militaires prétendaient ou espéraient. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Les populations se servaient de l'énergie du vent pour puiser de l'eau. Une eau qu'ils mettaient ensuite dans des citernes près de leur maison. Ces citernes servaient également à collecter l'eau de pluie qui tombait des toits. Et c'était l'eau de ces citernes qu'ils buvaient. C'est important de le savoir parce que c'est comme ça que vivaient beaucoup de gens dans cette zone. Et lorsque l'eau que vous buvez provient d'une citerne à ciel ouvert, elle est bien sûr exposée à tout ce qui se trouve dans l'atmosphère. Donc, quand la bombe a explosé et a empli l'air de poussière radioactive, des particules se sont retrouvées dans l'eau potable de la population. Dans cette zone rurale, les gens ont donc ingéré des éléments radioactifs en plus grande quantité que dans d'autres endroits.
Juillet 1945. Je pourrais n'être qu'une chose morne et simplement là pour effrayer l'autre. Certains de mes pères aimeraient que l'on me garde au secret, comme un objet de dissuasion. A-t-on saisi ma véritable nature? J'ai des doutes parfois. Je ne suis pas une grosse pièce d'artillerie ou une sorte d'hyperbombe conventionnelle. Quel sera l'état du monde après moi? Est-il trop tard pour que je disparaisse?
Les nazis, très vite, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas les moyens de mener le projet à bien, parce que la seule solution qui leur resterait pour arriver au plutonium, ça serait d'utiliser un réacteur à eau lourde.
Jean-Marc Royer.
Et l'eau lourde, très rapidement, va leur échapper, d'une part. D'autre part, il faut dire aussi, fin 1942, les nazis ne peuvent plus mener à bien un tel projet, parce que en 1942, ils sont arrêtés par les soviétiques à Stalingrad. Donc ils ont le front de l'Est qui leur demande beaucoup d'efforts et de ressources. Il y a le débarquement en Afrique du Nord, c'est-à-dire au Sud. Donc il y a un tournant qui se fait dans la guerre fin 1942. Et d'ailleurs, quelques mois avant, en juin 1942, ils décident eux-mêmes d'arrêter ce projet, cette recherche. Donc, il est évident qu'à partir d'un certain moment, la bombe n'était plus dirigée contre les nazis. Mais évidemment, qu'à Los Alamos, ils savent, et ce n'est pas caché, ils savent que ce n'est pas destiné aux nazis. Quand Joseph Rotblat a appris à l'été 44, par la bouche même de Leslie Groves, que la bombe n'était plus destinée aux nazis, Joseph Rotblat a quitté le projet parce qu'il voulait pas être complice de ce qui était en train de se faire. Ça a été le seul d'ailleurs à quitter le projet, et il a eu beaucoup d'ennuis après l'avoir quitté, puisque bon, le FBI et la CIA ont tenté de lui mettre sur le dos un certain nombre de choses, mais bon, il s'est avéré qu'il n'était pas du tout un espion, quoi. Donc on peut se poser la question que se posait Rotblat, c'est pourquoi continuer ce projet de bombe atomique si c'était plus dirigé contre les nazis?
Robert Oppenheimer.
I believe that the horror of the war that was on and the horror of the war which...
Je crois que l'horreur de la guerre, que les forces militaires s'attendaient à voir durer encore longtemps, était si grande qu'on tenait plus ou moins pour acquis que si une nouvelle arme pouvait mettre un terme à cette agonie, elle devait être utilisée.
Faut-il ou non utiliser la bombe?
Harry Bernas.
Quelles conséquences pour l'humanité de l'utilisation d'une bombe atomique? Cette notion, qui est une notion très ancienne, mais qui là réapparaît et qui va être déterminante dans les années qui suivent dans le mouvement des scientifiques, qui va créer le mouvement des scientifiques, cette idée que les scientifiques en particulier ont une responsabilité très grande parce qu'ils ont créé un objet, ou ils ont participé à créer un objet qui est capable de détruire, alors s'agissant d'une bombe atomique, c'est pas toute la planète, mais certainement de détruire une ville avec une seule bombe. Donc la guerre devient économique, elle devient moins chère, et c'est là une des premières choses que Truman verra plus tard. Donc il y a cet aspect économique, et puis c'est quand même d'une grande efficacité parce que ça tue beaucoup de gens à la fois. La question de savoir si le fait de tuer des civils en grand nombre est légitime dans un monde où, en principe, il est interdit de tuer des civils quand on fait la guerre, cette question-là, elle est sous-jacente, elle sera reposée un certain nombre de fois, mais finalement, on passera dessus. trouve que le groupe de Chicago a dans sa direction un prix Nobel qui s'appelle Frank, James Frank, qui est un type qui a travaillé avec Hahn d'ailleurs pendant la guerre de 14. Il a travaillé sous les ordres de Fritz Haber qui a fait la guerre des gaz. Donc il sait ce que c'est qu'une guerre où on tue des gens de manière épouvantable. Il est pacifiste. Il discute avec Szilard et à eux deux, il dégage un rapport. Là, on est en train de parler de mai 45. 45. C'est dans les semaines avant le largage de la bombe. Le thème du rapport Frank, c'est il faut faire une démonstration du pouvoir de la bombe, de préférence dans un désert ou sur une île déserte, etc. Convoquer les Japonais pour leur montrer à quoi ils s'exposent et leur dire « si vous arrêtez pas immédiatement, c'est ça qui va vous arriver dessus ». On sait la faire, on est capable de mettre les moyens et de la faire assez rapidement, mais il faut pas que ça devienne un armement des armées américaines, et encore moins des autres, disent-ils. Oppenheimer était un des personnages qui était au-dessus, à la fois il tenait ce discours, et il encourageait des scientifiques, des grands scientifiques, des gens comme Hans Bethe, des gens comme ça, à mener une bagarre pour qu'on ne développe pas les armes. Mais en même temps, lui était dans tous les comités qui préparaient le largage de la bombe sur Hiroshima à un moment où les scientifiques étaient encore à se poser, d'écrire le rapport Frank et de proposer qu'on fasse ça sur une île déserte, etc. Il a fini par diriger un comité de 4 personnes où Truman a fait poser la question « Est-ce qu'il faut ou non larguer la bombe ?» Ils ont conclu qu'il fallait la larguer. Et c'est lui qui a rédigé le procès-verbal. Ce rapport ne parvient jamais à Roosevelt. Il traîne dans les couloirs et à un moment, Roosevelt meurt. Et il ne verra jamais le rapport. Le rapport est remis à Truman qui le met illico à la poubelle pour lui. Il vient d'arriver, il n'apprend l'existence du projet Manhattan qui représente du point de vue financier l'équivalent aujourd'hui, ça serait de l'ordre de 200 milliards. Hein. Et ben, ces 200 milliards ont été cachés dans le budget de guerre des États-Unis. Le vice-président des États-Unis, en fonction, ignorait que ça existait. Et il réagit comme le brave politicien du Missouri qu'il est, pas très féru de politique internationale, etc., etc. Et pour lui, c'est une bombe plus grosse que les autres. Il ne voit pas pourquoi il ne l'utiliserait pas.
Experiment provides experience. Experience fortifies theory. Knowledge is power. The way is clear. The challenge strong. The duty inescapable. We must have the facts. Common sense calls for the facts. Now.
Joshua Wheeler.
I grew up in Alamogordo,
j'ai grandi à Alamogordo, une ville située à une centaine de kilomètres du site de l'essai Trinity. Quand j'étais jeune, il y avait encore un fort sentiment de patriotisme lié à ce lieu et au fait que le Nouveau-Mexique faisait partie intégrante de l'histoire de la création de la bombe atomique.
As I got older, I started to realize some of these stories that had been pushed under the rug.
En grandissant, j'ai pris conscience qu'il y avait d'autres histoires qu'on avait cachées sous le tapis. Les histoires des personnes qui sont tombées malades. Le fait que les États-Unis n'avaient pas bien géré la puissance de l'arme qu'ils avaient créée. Mais quand j'étais enfant, on nous racontait que la bombe atomique était une grande invention américaine et que la population du Nouveau-Mexique avait joué un rôle très important dans l'histoire de sa création.
cradle to grave is a term that we use for a place where literally the materials for atomic bombs
are pulled out of the ground. Pour parler du lieu où les matériaux de la bombe atomique sont extraits du sol, où ils sont raffinés puis intégrés à la bombe, où la bombe explose et où enfin les déchets atomiques sont enfouis. Beaucoup de ceux qui ont travaillé dans les mines d'uranium du Nouveau-Mexique venaient de la réserve Navajo, qui se trouvait être riche en uranium. Pour les personnes qui vivaient dans la réserve ou à côté, c'était les seuls emplois disponibles. Ça payait plutôt bien à l'époque et ça leur permettait de nourrir leur famille.
Unfortunately, the uranium mines were not a very safe place to work.
Malheureusement, les mines d'uranium n'étaient pas des endroits très sûrs. Et bon nombre de mineurs sont tombés gravement malades et sont morts. Il y a également eu un certain nombre d'accidents. Et donc, de façon consciente ou par hasard, les éléments du complexe industriel des armes nucléaires sont concentrés dans des zones où les gens sont pauvres, où bien souvent il s'agit de minorités raciales ou ethniques, et qui n'ont pas les moyens de se rebeller contre les injustices auxquelles ils sont soumis.
America has what's called the radiation.
Aux États-Unis, il existe ce qu'on appelle la loi RECA, Radiation Exposure Compensation Act. Depuis plusieurs décennies, c'est le principal moyen grâce auquel les gens qui ont été exposés aux radiations liées au complexe industriel de l'armement nucléaire américain peuvent obtenir des réparations. Mais au Nouveau-Mexique, dans la zone de l'essai Trinity, personne n'a été indemnisé. Il y en a bien d'autres comme eux dans d'autres endroits du monde, proches de zones d'essais nucléaires, et qui continuent de se battre pour essayer d'obtenir une indemnisation. Je peux vous dire qu'à ce stade, les États-Unis ont dépensé au moins 6 000 milliards de dollars dans la fabrication d'armes nucléaires. Et 2 000 milliards de plus sont mobilisés actuellement pour moderniser l'arsenal nucléaire. En 2035, lorsque cette modernisation sera achevée, les États-Unis auront donc dépensé plus de 8 000 milliards de dollars dans le plus grand complexe nucléo-industriel du monde. À l'heure actuelle, la loi RECA n'a versé que 2,5 milliards de dollars d'indemnisation aux personnes dont la maladie a été causée par l'utilisation d'armes nucléaires. Cela représente moins de 0,05% des 6 000 milliards de dollars consacrés à la fabrication des armes nucléaires. Donc, une fois que l'arsenal nucléaire américain aura été modernisé, le montant versé à ceux qui ont été touchés par la radioactivité sera en gros 0% de ce budget total.
Frédéric Glorian.
Ce qui est frappant dans cette entreprise américaine, c'est que, au final, si on prend la séquence Manhattan Project Hiroshima-Nagasaki, ce projet est pris dans la logique de guerre totale. Et donc, on mobilise tous les moyens possibles pour l'emporter à la guerre. Le présupposé, qui est commun à tous, hein, également à Churchill, quand il y a des discussions à propos de ce projet, c'est qu'à partir du moment où on a mis ces moyens-là, financiers, scientifiques, dans la création d'une nouvelle arme, cette arme, si on arrive à la fabriquer, on va l'utiliser. En fait, il y a tout un débat qui s'est développé entre historiens sur la décision la plus controversée de Truman, qui a été celle d'utiliser la bombe. Et en réalité, dans les archives, on ne trouve pas de moment, d'instant T, où il y aurait eu une prise de décision en ayant pesé le pour et le contre, en ayant posé une alternative entre utiliser la bombe ou bien se concentrer sur le débarquement de troupes sur les îles japonaises. Au final, il y a une espèce de continuité entre la masse d'argent investi dans le Manhattan Project et la prise de décision pour hâter la fin de la guerre dans le Pacifique.
Robert Oppenheimer.
Nous savions que le monde ne serait plus le même. Quelques personnes riaient, d'autres pleuraient. La plupart restaient silencieuses. Je me suis souvenu de ce verset de la Bhagavad Gita, un texte sacré hindou où Vishnu tente de persuader le prince d'accomplir son devoir. Pour l'impressionner, il prend sa forme à plusieurs bras et dit « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. » Je suppose que nous avons tous pensé cela d'une manière ou d'une autre.
Come your masters of war. You that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls,
you that hide behind disks. Le projet Manhattan, ou les prémices d'une désintégration.
I just want you to know I can see through your masks.
Avec Joshua Wheeler, Yves Lenoir, Sébastien Philippe, Frédéric Glorian, Jean-Marc Royer et Harry Bernas. Voix de la Bonne, Sarah Chaumette. Avec Laurent Lederer, Laurent Manzoni. Prise de son, Benjamin Thuot, Romain Lenoir, Amandine Grévoz-Frichou. Mixage Frédéric Changenet avec Pierre Langlais. Archivina, Samia Jedi et Hervé Evano. Documentaliste, Annelise Signoret et Antoine Villoz. Traduction, Eline Etquin et Elsa Viton. Chargée de programme, Anne-Vanessa Prévost. Coordination, Christine Bernard. Responsable éditorial, Emmanuel Laurentin. Une grande traversée de Stéphane Bonnefoy, réalisée par Anne Pérez.
You fasten all the triggers for the others to fire. Then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear can ever be hurled. Fear to bring children into the world. Oh, threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that